autour de ça.
C'est incroyable. On en parle avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. De ça et de bien d'autres sujets. Salut, Nick.
Salut, Nick. Bonjour tout le monde.
Incroyable de voir ça quand même. 1 500 $ pour un drapeau géant. C'est à se demander, Nick, si on n'avait pas ça en inventaire. J'imagine que le gouvernement a ça, des beaux gros drapeaux de cette ampleur-là, plutôt que s'en acheter un neuf comme François Legault a fait.
Ben, j'oserais croire qu'on a un entrepôt plein de drapeaux à quelque part. Là, c'est pas comme si on manquait de drapeaux sur nos bâtiments gouvernementaux. Donc oui, on aurait peut-être pu simplement recycler un. Mais le fait que ça coûtait 55 000 $ pour une annonce qui finalement aurait pu être faite simplement avec un communiqué de presse ou avec une vidéo filmée, ça, je pense, aurait été suffisant. Là. Il aurait pu faire ça directement à l'Assemblée nationale. Surtout pour une vision économique, on le sait, ça reste quand même c'est pas mal la même sauce bleue interventionniste où est-ce qu'on veut encore soutenir des secteurs clés, bien sûr, à travers Hydro-Québec. Comme on vient de le dire, c'est ça, c'était pas très, très révolutionnaire comme conférence de presse, comme annonce. Et ça aurait coûté 55 000 $, dont 1 500 pour un drapeau. Je me dis, bon, on a vu pire gaspillage de la part de François Legault, on a vu toutes les histoires de Nordvolt et de sa clique, mais on se souvient aussi du fameux chandail je pense que c'était de Guy Lafleur qui s'était payé surtout des contribuables. Je pense qu'entre 1 500 $ pour un chandail de hockey ou 1 500 $ pour un drapeau, je pense qu'il y en a un qui a un peu plus de valeur pour ne serait-ce que pour les Québécois comme tel. Surtout qu'il y en a un qui est dans son bureau puis l'autre qui doit sûrement servir à autre chose maintenant qui fait partie de l'attirail gouvernemental, mais c'est de l'argent qui aurait pu être épargné ou utilisé autrement.
Il n'y avait rien de neuf à annoncer. C'était tout du vieux, Nick. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai un retour, Nick. Je m'entends comme deux fois. Là. Mais il n'y avait rien de neuf à annoncer. Et c'était probablement en raison du fait que dans les sondages, c'est catastrophique pour la coalition Avenir Québec. Puis on essaye le plus possible de sortir des trucs positifs. Puis ça semble pas. La sauce semble pas pognée. Elle a de l'air bien flat. Puis on ne sait plus trop quoi faire. Il va falloir les watcher avec la Fédération canadienne des contribuables. Là, toutes les dépenses de la coalition Avenir Québec pour tenter de remonter dans les sondages. Parlant du gouvernement, ben Duranceau fait un travail nécessaire. On parle de postes de fonctionnaires qui devraient disparaître. On parle de 5 000 postes de fonctionnaires en moins d'ici 2027. Ça, c'est une belle nouvelle, ça.
Oui, ben on se souvient de la promesse que la CAQ avait faite en 2018 là, quand il promettait de réduire de 5 000 fonctionnaires l'appareil bureaucratique. Puis finalement, ben ça n'avait jamais vraiment été concrétisé. On se souvient que plutôt pendant cette période-là, ils ont rajouté quand même pas loin de 108 000 équivalents temps complet, que ce soit dans le secteur public, dont les ministères ou sinon dans le secteur parapublic. Finalement, ben ils ont été rattrapés par les circonstances, les déficits records, la décote. Et là, le ménage est enfin commencé. On parle de 5 000 postes d'ici 2027. Donc 2000 cette année, 3000 pour le prochain exercice financier. Donc on parle d'une économie qui est visée d'environ 375 millions de dollars. Puis on espère que ça va avoir un effet quand même récurrent chaque année sur les finances publiques. Ceci étant dit, vous avez déjà un branle-bas de combat de certains groupes, de certains syndicats qui dénoncent déjà là, en fait les coupures qui vont avoir lieu. On parle de coupures de postes de prime abord. Là, on parle pas de coupures directement d'employés, mais il va avoir un peu des deux. Ceci étant dit, l'épouvantail qui va être emmené de l'avant continuellement tout au long de cet exercice de réduction de la bureaucratie, c'est celui que ça pourrait affecter les services publics auprès de la population. Ce à quoi j'ai quand même été faire un petit peu de recherche en fin de semaine. J'étais malade, j'étais alité. Je sais encore un peu, je suis désolé, mais n'en reste que j'ai été voir, parce que je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de temps à perdre, même quand je suis malade, je suis allé voir les documents gouvernementaux du Conseil du Trésor par rapport aux effectifs, et j'ai été voir trois ministères qui sont pas nécessairement connus pour donner des services à la population. Le premier, c'est le ministère des Relations internationales. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y avait 283 personnes qui y travaillaient, maintenant il y en a 476, c'est une augmentation de 68%. Au ministère de l'Environnement, il y avait 1727 employés quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, il y en a 4025, c'est une augmentation de 130%. Puis au ministère des Transports, le nombre total de personnes qui a augmenté, c'est 45%. On s'entend que le ministère des Transports, il y a des services à la population de manière directe et indirecte. Mais je suis allé voir la SAAQ. qui rentre sous le ministère du Transport. Parce que la SAQ, on s'entend, il y a eu sa clique qui était supposée justement alléger en fait la charge bureaucratique avec la nouvelle plateforme informatique qui aurait été un flop monumental. Ben, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y avait 2910 personnes qui y travaillaient. Aujourd'hui, du moins dans les derniers rapports qui ont été publiés, c'est 4830 personnes, une augmentation de 65 %,
Aïe, aïe.
alors qu'on s'attendait à un allègement de la bureaucratie.
Mais avec le
Donc oui, si on
projet,
parle de...
Saclic, ça devait servir à ça, Nick, là. Tu sais, puis écoute, je me fie à ce que je vois. C'est sûr que c'est pas une étude exhaustive, là, mais quand tu vas dans les bureaux de la SAAQ, là, il y a beaucoup moins de gens qui s'occupent du service à la clientèle aujourd'hui qu'il y en avait il y a de ça quelques années. Puis toi, tu me racontes qu'il y a le double d'employés maintenant. J'étais sûr que c'était le contraire.
Malheureusement, non. Puis en plus, ils ont embauché pas loin de 200 employés pour gérer la crise sur le coup, qui auront finalement été des effectifs permanents. Donc, finalement, on n'a jamais allégé la machine à aucun moment sous la CAQ. Donc, enfin, l'exercice a lieu présentement. Puis, je tiens à dire, là, j'ai expliqué 68 % aux relations internationales, 130 % à l'environnement. Mais je tiens à mettre en parallèle le fait que la population du Québec, sur cette période-là, a augmenté d'environ 10 %. Donc, c'est pas normal, là, que la fonction publique augmente à un rythme deux fois plus élevé en termes de croissance que la population qui est supposée servir. Puis, inversement, le coût de la fonction publique, quand on regarde la rémunération, parce que c'est un peu à ça qu'on doit s'attarder quand on parle de la fonction publique, c'est pas juste le nombre d'employés, mais qu'est-ce que ça nous coûte aux contribuables? Ben, le coût a explosé en fait deux fois plus rapidement que l'inflation au cours des dernières années. Donc, tu as une fonction publique qui nous coûte plus cher, dont le coût augmente plus rapidement que l'inflation et dont la taille augmente plus rapidement que la population. C'est problématique. Donc, heureusement, Durançon commence à faire le ménage. Moi, je suis parti de ceux qui disent peut-être un peu trop tard, mais on peut au moins s'en contenter puis célébrer le fait qu'il y a enfin une tentative d'alléger la fonction publique, de la rendre plus efficace, plus efficiente, puis justement de la forcer à avoir un changement de culture interne.
Hey Nick, quand je regarde ça, c'est un nombre d'heures qu'on veut réduire qui équivalerait à 5 000 employés à temps complet au gouvernement. Mais est-ce qu'il va y avoir tant de fonctionnaires qui vont prendre la diminution d'heures de 35 à 32 avec le coût de la vie qui est en augmentation? On dirait que je resterais Thomas face à la démarche de France-Hélène Duranceau.
C'est sûr qu'au niveau de la réduction des heures, ça, moi aussi, j'ai un bémol là-dessus parce qu'effectivement, dans un contexte économique où est-ce que les gens serrent déjà la ceinture, ils vont pas vraiment couper dans leurs heures par-dessus le marché parce que ça veut dire simplement un revenu plus bas. Ceci étant dit, l'option de faire 32 heures au lieu de 35 heures existe déjà dans la fonction publique québécoise. Donc, il n'y a rien vraiment de révolutionnaire là-dedans. C'est juste qu'il va être beaucoup plus mis de l'avant que ce que c'est présentement. Ceci étant dit, avant même de parler de réduction d'heures, je pense que c'est réduction de postes, ne serait-ce que par attrition. Donc, le principe, c'est simple, c'est que quand il y a des départs à la retraite, au lieu de renouveler le poste, on va simplement le fermer si on constate que l'utilité est dépassée pour cette position-là. Donc, le maximum de coupures peut être fait déjà là parce qu'au Québec, on a un certain avantage, c'est qu'on a, puis c'est pas vraiment un avantage comme tel, mais on a une population vieillissante, on a beaucoup de départs à la retraite et ça touche la fonction publique. Donc, il y a une opportunité à saisir là qui permet de couper sans que ça. Comment dire, sans nécessairement devoir couper carrément des jobs. Donc, ça peut être encouragé. Mais au final, l'exercice de 5 000 postes, je veux dire, c'est beau, mais il arrive beaucoup trop tard. Il aurait dû être fait en 2018 comme ça avait été promis. Finalement, la CAQ arrive vraiment à faire ce ménage-là après avoir accumulé des déficits records. Et c'est clairement à cause de différents signaux d'alarme qui viennent des marchés financiers et de la pression de créditeurs auprès du gouvernement qui doivent dire, écoutez, là, vous devez arranger des choses parce que sinon, on va décoter puis ça va vous coûter encore plus cher pour rembourser la dette du Québec, etc. Donc, clairement, il y a un ménage qui est fait en surface. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il va falloir attendre, en fait, le prochain budget en 2026 pour voir si ce que Mme Durançon fait jusqu'à maintenant se concrétise et si le plan tient la route.
Max, le 2 décembre dernier, tu nous apprenais que la hausse des tarifs d'Hydro-Québec allait dépasser l'inflation en grimpant de 9 % en 3 ans si la Régie de l'énergie accepte les demandes de la Société d'État. C'est en porte-à-faux un peu avec ce que François Legault nous avait promis il y a de ça quelques années. Est-ce que tu me confirmes qu'il n'est pas ressorti depuis que cette nouvelle-là est sortie de la part des Québécois? Legault n'est pas ressorti sur les tarifs d'Hydro-Québec?
En effet, de mon bord, j'ai rien vu là-dessus. Est-ce que c'est plus tard qu'on va nous arriver avec une petite surprise et là, on va arriver en sauveur en disant non, ça va respecter le 3 % ou ça va respecter l'inflation. C'est supposé être le plus bas des deux. Peut-être que ça va venir plus tard, mais pour l'instant, il y a...
Ça fait quand même 6 jours que ça a été annoncé, ça, là.
Mais on est peut-être trop loin des élections.
Mais c'était une promesse de François Legault, ça, Nick.
Oui, puis c'est toute une histoire de montagne russe un peu bizarre, là, parce que, bon, en 2019, il y avait eu le projet de loi 34 où est-ce que le gouvernement, à ce moment-là, avait décidé d'indexer plutôt la hausse des tarifs d'Hydro-Québec à l'inflation. Puis après ça, on se souvient de ce qui a eu lieu en 2021-2022. L'inflation a pris, c'est comment dire, a explosé cette période-là, et ça a fait en sorte que le gouvernement a essayé de se rattraper en disant, bon, OK, c'est parce que si on indexe les tarifs à l'inflation, ça va coûter très cher aux foyers familiaux, donc on va plafonner ça. Donc, dorénavant, ça ne dépassera pas 3% ou le seuil de l'inflation. Ça, c'est dans le projet de loi 2 qui a été passé en 2023. Et puis là, entre-temps, ils ont fait un autre projet de loi, le projet de loi 69 qui a été passé l'été dernier. Puis là, ils disent finalement, écoutez, en fait, là, ça sera plus l'inflation, ça va être plafonné soit à 3% ou en fonction des besoins opérationnels. Donc, ça peut aller jusqu'à 3%. Donc, on n'est plus à indexer à l'inflation. On est rendu à dire que c'est indexé aux besoins d'Hydro-Québec essentiellement, mais que ça ne dépassera pas 3%. Donc, on est quand même encore loin de la fameuse, comment dire, promesse qui avait été faite de s'assurer que la facture d'Hydro n'augmente pas plus rapidement que l'inflation, parce qu'on parle d'une augmentation d'environ 3% pour les 3 prochaines années à venir. Donc 3% cette année, ensuite l'année prochaine, donc 9% au total sur 3 ans. Et ça équivaut à une augmentation de pas loin de 240 $ là, en moyenne par foyer au Québec. Donc c'est quand même une augmentation assez importante qui est au-delà de l'inflation. Donc encore une fois là-dessus, on comprend qu'on joue un peu avec les mots au sein du gouvernement, mais on peut parler d'une sorte de promesse brisée, oui.
Nick, justement, parlant de ça, j'ai l'impression que François Legault peut-être va faire un cadeau, mais peut-être que non non plus, parce que les milliards qu'Hydro-Québec redonne au gouvernement sont de moins en moins présents, surtout avec le plan de développement. Donc, à un moment donné, si on veut revenir à l'équilibre budgétaire, on ne pourra pas faire les deux.
C'est un très bon point parce que le rendement d'Hydro-Québec n'était pas tout à fait au rendez-vous des 2 dernières années, voire les 3 dernières années. Du moins, on n'était pas dans des conditions extrêmement bénéfiques pour le gouvernement du Québec, parce que si les revenus d'Hydro-Québec baissent, essentiellement les revenus du gouvernement baissent, puis on voit ce que ça donne au niveau des finances publiques au final. Puis il faut aussi rappeler qu'Hydro-Québec s'est engagé dans un projet comment dire, en fait, d'infrastructures aussi, de développement sur les 10 prochaines années qui va coûter pas loin de 184 milliards de dollars là, en développement. Donc, essentiellement, cet argent-là va venir des hausses de tarifs qui sont à prévoir au cours des prochaines années. Il y avait déjà eu plusieurs drapeaux rouges qui avaient été levés auparavant en disant que cette augmentation des infrastructures, parce qu'essentiellement, Hydro-Québec veut doubler sa production d'énergie au cours des 10 prochaines années, ça pourrait se traduire par un choc tarifaire qui va être refilé soit aux particuliers, soit aux PME. Là, pour l'instant, les particuliers, on a encore cette notion que les tarifs augmenteront pas plus haut qu'à un rythme de 3%, mais c'est pas le cas pour les PME, par exemple. Les petites et moyennes entreprises du Québec ne sont pas protégées par ce mécanisme-là présentement. Donc, il y a des fortes chances que le choc tarifaire se fasse ressortir d'abord chez nos PME. Puis, rappelons-le, au Québec, avec le cadre fiscal et réglementaire qu'on a, avec l'imposition et la paperasse qu'on refile aux PME, le principal avantage qu'on a, c'est d'avoir l'électricité à bas tarif. Mm-hmm. Et là, on s'attend à leur refiler des explosions de tarifs après explosions de tarifs.
Juste une petite aparté, Nick, Max, on a des nouvelles dans l'actualité judiciaire.
Ouais, du côté du Saguenay, une femme de 28 ans qui a été retrouvée sans vie dans un motel en fin de semaine. Une mort suspecte, c'est ce qu'on a pour l'instant comme information. On est en enquête. On nous dit que ce serait pas lié à la violence armée, mais mort suspecte d'une femme de 28 ans originaire de Saguenay.
Toujours avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Il est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Vous avez des exclusivités aussi. Le Conseil des ministres de Carney qui a organisé un petit meeting de 2 jours en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a annoncé? Ça a coûté combien?
Pas vraiment eu d'annonce. En fait, c'est une sorte de tradition parlementaire là, chaque année. En fait, avant l'ouverture des travaux à Ottawa, le Conseil des ministres va se rassembler à un endroit en particulier pour faire une retraite essentiellement, se décontracter, faire des meetings, puis essentiellement peut-être en profiter un peu surtout des contribuables. Puis c'est disons comme je le dis, c'est une tradition qui a été autant effectuée par les conservateurs que les libéraux dans le passé. On se rappelle à quel point on n'arrêtait pas de dire que Trudeau était dépensier avec ses déficits, avec ses extravagances. Mais on pensait pas que Carney ferait pire. Donc, ben là, Carney, il nous a prouvé qu'il pouvait faire pire que Trudeau avec les déficits de 78 milliards qu'il nous a livrés il y a pas longtemps. Mais on a aussi appris, en fait, que même quand il fait des retraites avec son conseil des ministres, ben, il arrive à faire sauter la facture. Et ben, on a trouvé des documents de notre côté à la Fédération canadienne des contribuables qui confirment, en fait, que sa simple retraite avec son conseil des ministres. Donc, ça, c'est environ, là, ça va dépendre des chiffres, là, mais on parle d'environ 28 personnes, dont 28 ministres, 10 ministres d'État, le premier ministre et pas mal leur garde rapprochée. Donc, on parle d'environ une centaine de personnes, tout au plus. Ben, ce monde-là se sont rassemblés à Toronto pour 2 jours, puis ça a coûté 532 000 $ aux contribuables pour 2 jours de réunion. Et tout ça pour avoir, bien sûr, loué un hôtel de luxe. On parle du Pan Pacific Toronto, qui est un hôtel où est-ce qu'on peut faire des conférences et tout ça. Bref, la raison pour laquelle on a fait cette sortie-là, c'est qu'on a aussi comparé le coût de cette retraite, de ce conseil des ministres, avec ceux qui avaient été organisés par Trudeau auparavant. Puis les deux plus coûteux qu'il avait fait, en fait, ça remonte là à 2023-2024, c'était à Charlottetown ou à Vancouver. Puis dans les deux cas, même en tenant compte de l'inflation, Trudeau ne dépensait pas autant que Carney pour faire ses rassemblements, ses tenues ou ses conseils des ministres. Fait que c'est une démonstration que quand on a le dos tourné un peu trop longtemps, les politiciens en profitent. Puis dans ce cas-ci, au lieu de prendre une salle de conférence à Ottawa où tout ce beau monde-là de travail pour se rassembler ou à la limite pour faire ça sur Zoom, ben ils ont décidé de faire ça directement à Toronto sur le bras des contribuables. Puis on n'a même pas encore toutes les factures, c'est 532 000 $ pour l'instant, mais il reste encore des factures à recevoir qui nous démontrent que finalement c'était tout un party sur le bras des contribuables.
Chaque denier public n'est pas judicieusement utilisé.
Non, absolument pas.
C'est toujours un plaisir, Nick, on se reparle la semaine prochaine.
Avec un grand plaisir. Salut.
Bye bye.
Salut.
Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Voulant savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. Jeff.
Il n'y a pas de salle de conférence assez grande au Parlement pour réunir tout le monde. C'est pour ça qu'il faut qu'il est dans un hôtel.
Mais un moment donné, il va falloir...
532 000.
Un moment donné, il va falloir mettre un coup de barre là-dedans.
Ben oui.
Avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, là, c'est facile. C'est pas comme si c'était hyper visuel. Là. Ces gens-là se parlent, ces gens-là ont de la documentation. Tout peut être numérique aussi, par courriel. Ils peuvent se travailler, ils peuvent s'envoyer des choses par Teams. Ils sont capables de faire les choses à distance. Là.
Clairement.
Quand ça coûte un demi-million pour se rencontrer... Hey,
une réunion de 2 jours. Un demi-million. Quelle entreprise privée va faire ça?
Personne.
Mais voilà.
Personne. Mais le gouvernement fédéral pense qu'il est capable de le faire.
Oui, ouais, parce que 78 milliards de déficit, tu passes encore.
Parce qu'on est un puits sans fond. 8,48, on vient. Boulevard 102.1. Marceau.